Bonsoir à tous, bienvenue dans ce COP Nord très spécial puisque nous sommes ici en direct du stade de la Libération. Ce soir à 20h45, l'USBCO affronte l'USLD. On va donc pouvoir ce soir bien vivre les préparatifs autour de cette rencontre. On vous emmènera notamment dans quelques minutes dans le vestiaire de l'USBCO qui est en train de se préparer. Ensuite, on va parler évidemment sportif avec le coach de Boulogne et avec le président de Dunkerque. Bref, on a plein de choses à vous faire vivre dans cet avant-derby dont l'enjeu sportif est limité certes, mais dont les supporters boulonnais et dunkerquois attendent énormément. Voilà pour le programme ici du côté du stade de la Libération. Supporters de Lille, supporters de Lens et de Valenciennes, évidemment, on ne vous a pas oublié ce soir. La preuve, on retrouve tout de suite Thomas Palmier avec nos supporters en plateau. Quel est le programme ce soir pour les Lillois, les Lensois et les Valenciennois, Thomas?
Salut Vincent, salut à tous. Effectivement, très beau programme dans ce COP Nord. Ce soir, évidemment, on va débriefer cette journée de Ligue 1, cette journée de Ligue 2 et de National. Bien sûr, il s'est passé beaucoup de choses pour nos clubs du Nord et du Pas-de-Calais. Des scénarios renversants, des victoires importantes, notamment dans la course à l'Europe pour le LOSC. On va en parler, bien sûr, pendant cette heure et demie dans ce COP Nord. Et évidemment, eh bien, on retrouve nos acolytes, nos experts, bien sûr, avec du côté Lensois ce soir, pour une fois. Tao Couvrin, salut Tao.
Salut Thomas, salut tout le monde.
Et à tes côtés, Tony Méreux. Salut
bonsoir,
Tony.
Bonsoir Thomas.
Comment ça va?
Très bien.
On a passé un bon week-end?
On est toujours deuxième, donc
renversant du côté de Brest, on va en parler. Et de l'autre côté, à côté eh bien, Lillois, bien sûr, Maxime Bailleul. Bonsoir Maxime.
Salut Thomas.
Comment ça va?
Très bien.
Ça s'est bien passé ce week-end?
Impeccable aussi, on est plutôt content de la victoire.
On a parlé, il a pris des couleurs. Donc.
Et puis on prend des couleurs, il fait beau à Lille.
Oui, il fait beau, effectivement, et on va en profiter bien sûr. Mais nous, on va surtout vous parler du sommaire de ce COP Nord, évidemment, bien sûr, consacré en partie à la victoire du LOSC, bien sûr, sur la pelouse du Paris FC. On va en parler, bien sûr, et avant ça, on va retrouver Vincent Vieillard à la Libération. Vincent.
Je vais décaler un tout petit peu pour pas que j'ai le soleil en plein dans les yeux.
Tu veux qu'on échange?
Non, je décale juste un tout petit
peu. Non, bien sûr.
Ouais, c'est parfait.
Ah oui Théo, nous aussi on profite du beau temps ici avec Théodore Peterson. On va pouvoir donc en parler notamment avec Emmanuel Calafiore qui est en régie. Je pense qu'on doit avoir un léger délai, ce qui explique peut-être aussi les problèmes qu'on est en train d'avoir en termes de technique. En tout cas, donc Cyril Frémin, laissez-moi vous présenter le journaliste sportif de Delta FM qui est aussi l'inventeur du terme opalico. Ça c'est vrai, pour le coup, vraie histoire, et c'est vrai que c'est un terme qui aujourd'hui est repris un peu partout. Plus sérieusement, donc parlons du match ce soir puisque c'est ça qui nous intéresse. Déjà bonsoir Cyril.
Salut Vincent, bonsoir à tous.
Très belle création en tout cas ce terme opalico. Parlons donc du match ce soir, déjà du côté sportif. On a des Boulonnais qui ont enfin acquis leur maintien, mais qui vont quand même venir, l'esprit libéré certes, mais dans l'envie de gagner.
C'est ça, effectivement, on a envie en fait de fêter tout simplement hein, ce maintien qui est donc définitif depuis vendredi, le match nul entre Laval et Rodez, le 0-0 qui permet mathématiquement aux Boulonnais de rester à ce niveau. Faut quand même rappeler hein, c'est un véritable exploit hein, puisque quelques jours seulement, une semaine avant le début de la saison de Ligue 2, du fait de bisbilles avec Ajaccio, Boulogne ne savait pas s'ils allaient monter en Ligue 2, ils avaient tout préparé le staff pour le National. Ben non, finalement ils sont montés en Ligue 2 et la saison qu'ils ont fait est vraiment extraordinaire, et du coup on a envie évidemment de fêter, je le disais, ce maintien, cette deuxième saison de suite en Ligue 2 avec une victoire après face à Dunkerque. Ce sera pas évident. On rappelle que c'est la troisième fois que les équipes sont affrontées. Pour l'instant on a eu deux fois un match nul avec un petit avantage à Dunkerque, puisque l'autre match nul c'était en Coupe de France et Dunkerque s'était qualifié après au tir au but.
Et on se souvient effectivement et on en reparlera de ce qui s'était passé après ce match. Juste un mot aussi, bah, on a parlé rapidement de cette saison de Boulogne, des victoires de prestige face à Montpellier ici et là-bas, des victoires à Saint-Etienne aussi du côté du stade Geoffroy Guichard. Du côté des Dunkerquois, en revanche, le maintien est acquis depuis longtemps. Par contre, 2026, ça ressemble à un chemin de croix.
C'est le moins qu'on puisse dire, effectivement. On rappelle, hein, c'est 8 matchs sans victoire du côté de Dunkerque. Et si on pousse la série un peu plus loin, sur les 12 derniers matchs, c'est une seule victoire. Donc c'est vrai que c'est difficilement compréhensible parce que la première partie de saison avait vraiment été exceptionnelle. Et je pèse mes mots parce qu'on était un petit peu inquiet l'été dernier de la saison de l'USLD. Plusieurs cadres qui étaient partis, notamment Nathan Skita qui avait été vraiment le scandinave, le métronome, l'un des métronomes de la saison dernière, exceptionnel là aussi de Dunkerque, qui était parti. Il y avait eu d'autres départs du coach aussi, Luis Castro, qui avait été remplacé par un technicien polonais qui n'était resté que quelques jours. Ça s'était très mal passé avec le joueur, avec les dirigeants. Finalement Albert Sanchez, l'Espagnol, débarque une grosse semaine avant le début du championnat, et puis finalement on a eu une première partie de saison vraiment très belle, encore du jeu, peut-être encore plus de jeu. Et je trouvais même que Dunkerque Danemark était limite plus fort que l'an passé parce qu'ils étaient moins dépendants de certaines individualités. Ragoubert qui est reparti à Lille, Nathan Skita, je le disais. Et du coup, on sentait vraiment les Dunkerquois encore plus forts collectivement. En tout cas, ça c'était pour la première partie de saison. Qu'est-ce qui s'est passé sur la seconde? Peut-être un mercato hivernal qui a été mal géré avec notamment le départ de Guessim Yassine. En tant que dirigeant, ça peut se comprendre évidemment qu'on le vende. Hein. Il est parti à Strasbourg pour quasiment 10 millions d'euros. Le budget de Dunkerque, c'est 10 millions et demi. Donc voilà, en un transfert, vous doublez votre budget. Après, je me mets à la place des joueurs qui espéraient, pourquoi pas, jouer la montée en Ligue 1. On sent qu'il y a un petit peu moins de dynamique du côté du groupe. Sans doute, encore une fois, ce mercato qui n'a pas été très réussi cet hiver.
Merci beaucoup, Cyril, effectivement, pour ce point sur les saisons des Boulonnais et des Dunkerquois. Effectivement, maintien acquis ce soir, mais les supporters Boulonnais et Dunkerquois attendent énormément de cette rencontre ce soir. Il y a un peu de climat, un peu de tension. On peut résumer ça en quelques mots, justement. D'où ça vient, cette rivalité autour de ce match?
Ça vient tout simplement de supporters des deux côtés hein, qui cherchaient un petit peu, on va dire, une nouvelle rivalité. Boulogne, pendant longtemps, ça a été face à Calais. On se cherchait un petit peu. Et quand les deux clubs se sont retrouvés au même niveau en national, tout de suite, on s'est dit, c'est le derby, l'Opalico, ce sera Boulogne face à Dunkerque. On a besoin de ça en football. Hein.
Mais malheureusement, il y a certains débordements dont on va parler dans quelques minutes. Thomas, on va maintenant parler du LOSC, effectivement. Lille qui s'est donc imposée dans la douleur du côté du Paris FC. Qu'en pensez-vous, vous, en plateau?
Oui, merci messieurs. Évidemment, on va commencer bien sûr ce Cop Nord par parler du LOSC. Cette victoire du LOSC du côté du Stade Charletti du Paris FC, c'est à la une de notre Cop Nord. Messieurs, on s'est permis un petit jeu de mots, une victoire capitale pour les Lillois qui se sont imposés avec un but sur pénalty de Mathias Fernandez-Pardo. Avant d'analyser cette rencontre, on va revoir bien sûr les meilleurs moments de cette rencontre et de cette victoire lilloise.
Le LOSC réalise une bonne opération face au Paris FC, succès 1-0, au cœur d'une rencontre sous tension, à l'image de l'expulsion du capitaine parisien Pierre Lesmilou en fin de rencontre et deux pénaltys sifflés. Seul Mathias Fernandez-Pardo transforme sa frappe. Devenu indispensable pour l'attaque nordiste, le Belge totalise 8 buts cette saison. Les Lillois, invaincus depuis 11 matchs, reviennent à égalité de points avec Lyon, 3e, son rival pour la qualification directe en Ligue des Champions la saison prochaine.
On sait que plus on approche de la fin et plus les points coûtent cher. Donc c'était un match piège face à une équipe qui restait sur une dynamique très positive. C'est leur première défaite, je crois, sur les 8 derniers matchs. Donc on est content de l'avoir fait, même si ça a été difficile. Et qu'on aurait préféré peut-être concrétiser une ou deux situations pour être à l'abri et moins trembler en fin de match, notamment sur le pénalty.
Oui, moins trembler en fin de match, ça va être aussi l'un des enjeux de la fin de saison pour moins se faire peur côté Lillois et moins faire peur au cœur des supporters Lillois. Ouais. Maxime, c'est une victoire évidemment très importante, on va en parler, il y a d'autres équipes qui se sont un peu manquées dans cette course à l'Europe le week-end dernier. Pour Lille, c'est un succès vraiment prestigieux.
Oui, hyper important, c'est sûr. Il reste plus beaucoup de matchs, donc il fallait. J'ai envie de dire maintenant, on cherche plus à faire du beau jeu. Il faut prendre des points. On sait que des équipes en perdent aussi. On le voit, Marseille encore. Donc, fallait gagner ce match. Moi, j'ai bien aimé le match n'était pas flamboyant, hein, la deuxième mi-temps notamment. Mais par contre, on prend 3 points hyper importants. On est tueur. Fernandez-Pardo notamment, à son image, il met le penalty qu'il faut sur coup de pied arrêté. On a de la réussite, on arrive à sauver le penalty de Kebal avec un bel arrêt après le poteau. Donc c'est pas un match flamboyant, c'est pas un match qui fera référence, mais c'est 3 points hyper importants qu'il fallait prendre.
Et puis surtout que le Paris FC avait été sur une série incroyable aussi de victoires et de matchs
sans défaite. Ouais.
Donc c'est un exploit d'aller gagner là-bas.
Hein. Ouais. Ah ouais. Tao, 4e victoire sur les 5 derniers matchs pour les Lillois. Est-ce qu'ils sont partis là comme un boulet de canon pour cette fin de saison?
Ils ont un coach qui habituellement finit très bien ses saisons, Bruno Genesio, avec tous les clubs dans lesquels il est passé. Mais oui, c'est aussi une victoire vraiment au patron. Lille ne prend pas de but. Et en effet, aller gagner à Paris, c'est ouais. pas évident. Victoire vraiment costaud et à l'image du milieu de terrain lillois qui, comme l'a dit Pierre Lesmélou à la mi-temps, à manger le milieu parisien.
Et ouais. la défense aussi, hein. Moi, j'insisterai aussi sur la défense. La charnière centrale, Ngoy, Mandi, je trouve que c'est hyper
c'est solide.
Solide.
Tu prends plus de but, hein, donc.
Prends plus de but. Hein. Derrière, ça tient. Perrault, il nous obtient le pénalty. Il est solide aussi. Et puis, pour cette fin de saison, on a un calendrier qui est quand même vachement favorable. Mmh. On en parlait par rapport à Lyon. C'est quand même nettement plus abordable. Mmh.
Cinquième succès d'affilée à l'extérieur pour les Lillois en championnat. Ça n'était plus arrivé depuis la saison 2020-2021. Une solidité aussi hors de leur base pour les Lillois qui va être très importante en cette fin de saison. On sait qu'il y aura un match important aussi du côté de Monaco lors de l'avant-dernière journée. Le dernier déplacement pour les Lillois pour peut-être valider une place quasiment en Ligue des Champions.
Quand on voit le calendrier des uns des autres, si Lille fait le boulot à domicile... A priori, le top 4, voire le top 3 sera validé. Mais il faut faire le boulot à domicile. Et ce match à l'extérieur à Monaco, c'est pas non plus évident.
Tony, notre supporter lensois du sort, est-ce que les Lillois qui reviennent sur les talons, est-ce que ça vous étonne au vu de la saison des Lillois ?
Ça m'étonne oui et non. Depuis 10 matchs, je te dirais que ça m'étonne plus. Mais ils ont eu un gros trou d'air décembre jusque février qui a été très compliqué.
Ouais. Tout le monde les voyait morts.
Tout le monde les voyait morts. Ils sont revenus. Bon, après, ils font le taf. Ils ont gagné les matchs qu'il fallait gagner. Lyon, Lens, Marseille. Et puis voilà, après, ça rattrape. Effectivement, ils reviennent au talon à 6 points. On a un match de retard encore. Donc logiquement, nous, il nous manque une victoire à nul pour finir minimum deuxième. Donc on va jouer la course à fond et puis
pas de stress pour la deuxième place.
On en parlera tout à l'heure.
On va éviter.
À la deuxième place pour le Racing Club de Lens qui a fait un match nul spectaculaire du côté de Brest vendredi soir. Maxime, on en parlait tout à l'heure avec Tao, l'un des hommes de ce succès lillois qui aussi illustre et incarne ce regain de forme pour les Dogs, c'est Mathias Fernandez Pardo, aligné depuis plusieurs semaines à la pointe de l'attaque. Un but inscrit, une barre touchée en fin de partie. Il a été grandement efficace et grandement important dans ce succès lillois.
Ouais, carrément. Moi, j'aime beaucoup cette fin de saison de Mathias Fernandez Pardo. Après la blessure d'Igaman, on avait peur de ce poste de numéro 9. On a Giroud, mais on sait que Giroud ne peut pas jouer tous les matchs. Moi, je me souviens à ce micro, j'avais dit je veux le voir jouer en 9, même si on le voyait plus en début de saison latéral avec des qualités de vitesse qu'il a. Mais au final, je trouve qu'il a hyper progressé devant le but, à l'image de ce match-là où effectivement, il fait le boulot, il met une super frappe qui finit sur la barre. Enfin,
non. Et le but sur pénalty à la 26e, ouais.
Ouais, il revient à ses premiers amours parce que c'est son poste de base à la Gantoise. Il évolue à ce poste-là. Il était un peu moins mobile et justement, ses matchs en tant qu'ailier l'année dernière, ça lui a permis de gagner en vitesse, en prise de balle. Et on voit que là, de retour à ce poste, c'est vrai qu'il peut être très très complet.
Huitième but pour Mathias Fernandez Pardo en Ligue 1. 5 passes décisives aussi pour lui. Bruno Genesio, après le match, disait qu'il avait surtout retrouvé de la confiance aussi et qu'il le sentait plus heureux dans son effectif. Ça, forcément, quand un joueur est en confiance, Maxime, c'est hyper important.
Oui, on sait qu'il voulait jouer à ce poste-là. Ça a été un peu difficile là en première partie de saison. Mais maintenant qu'il est à ce poste-là, qui marque en plus, il est sur une super série, même sur les 5-6 derniers matchs. Je pense qu'il met, il met 3-4 buts. Donc non, vraiment, il fait vraiment beaucoup de bien sur cette fin de saison, je trouve, au LOSC. Et on avait besoin de ce tueur devant le but.
Apparemment, c'est mental aussi. Bruno Genesio a parlé de qu'il a beaucoup progressé mentalement. Le mois de février, comme un peu tous ses coéquipiers, il était au fond du seau et il a su avoir la bonne attitude pour bien revenir et bien finir.
Mathias Fernandez Pardo, donc, qui revient en forme en cette fin de saison. Et puis, il y a un garçon aussi. Sa saison est un petit peu paradoxale, c'est Berke Özer, le Turc, dans le but lillois. Il a été capable de coups d'éclat. On se rappelle de ce triple pénalty arrêté face à Rome en Ligue Europa. Dimanche encore, il a arrêté un pénalty à un quart d'heure de la fin. Sur une action après le pénalty de Kebal qui touche le poteau. Coléocho qui suit derrière le Parisien. Bonne parade de Berke Özer. Il est capable de prendre feu, ce gardien, à des moments donnés, de faire aussi des grosses boulettes. Mais là, ça a été du bon côté pour les Lillois.
Ouais, je suis partagé moi sur Berke Özer. J'aime pas ses relances du tout au pied. Je trouve qu'il est, il est pas là. Après, il a beaucoup de clean sheet quand même sur cette saison. C'est un gardien qui est capable effectivement, je trouve du meilleur aussi, qui est pas forcément toujours très rassurant. Bon là sur le penalty, il y a un peu de réussite aussi. Hein. Alors il se relève vite, mais le premier tir, il peut le prendre aussi. C'est pas l'homme du match. Je trouve, je mettrais plutôt l'accent sur la défense ou peut-être les milieux de terrain. Mais on peut rien lui enlever. Hein. Il prend pas de but sur ce match-là, c'est ce qu'on attend.
Après. Et puis Tao, de l'autre côté aussi, il y a ce bon côté comme on a vu dimanche, mais il y a aussi l'inverse contre Strasbourg. On se rappelle un pénalty offert à Emega, oui, face à l'Étoile Rouge de Belgrade aussi. Il avait été malheureusement décisif pour l'adversaire. Voilà, on sent que c'est un gardien qui manque encore un peu de confiance et de stabilité dans ses performances.
Bah, il est jeune aussi. On se rappelle les derniers flops côté lillois du côté des gardiens de but. On sentait pas trop d'axe de progression du côté des gardiens. Berkehauser, on sent qu'il a quand même une bonne, oui, marge de progression. Il est jeune. Moi, je préfère que le LOSC tente un coup comme ça et fasse progresser, que tente des prêts ou autre. Et il n'y a pas de perspective, entre guillemets, d'avenir. Donc, je pense qu'il sera encore là la saison prochaine. Et si son début de saison se passe bien, bah, il faut continuer à faire progresser ce joueur.
Il a une marge de progression, tu as raison. Il s'entraîne fort, il progresse aussi à l'entraînement. Il écoute, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup, apparemment. Donc, il a tout pour progresser et gagner en régularité, parce que c'est finalement peut-être là, oui, qu'il faut chercher.
Ouais, et on le sait qu'un gardien, c'est très important dans la course à l'Europe. Tony, on peut évidemment, on ne peut que dire ça pour le Racing Club de Lens, même si c'est un peu moins le cas depuis quelques semaines quand même pour Robin Rissa.
Ouais, c'est compliqué. Après, il nous a énormément sauvé cette année sur des gros matchs où, grâce à lui, on arrive à sortir les 3 points. Là, c'est vrai que dimanche, vendredi dernier, il prend 2 frappes de but. Là, il prend 3 frappes, 3 buts. Bon, après, ça reste des très belles frappes. Et je pense sur les 5 buts, il y en a 4 qu'il peut jamais arrêter. Donc voilà, c'est tout.
Il est un peu moins décisif.
Ouais. Il est un peu moins décisif. Après, c'est vrai que les buts de vendredi, ils sont quand même très beaux en face. Hein. C'est des belles frappes. Après, on leur donne aussi les situations. La dernière, le troisième, elle est quand même contrée par Malang Sarr, qui fait qu'il est dessus. Bon, ça se décale. Donc c'est aussi, il n'y a pas de chance non plus. Mais effectivement, il va falloir, sur les 4 derniers matchs qui nous restent, voilà, être déjà plus clinique derrière, parce que on prend des buts à tous les matchs.
Oui, la défense va être importante évidemment dans ce sprint final. Maxime, pour le LOSC, cette journée est très positive quand on sait que Monaco a perdu des points sur la pelouse du TFC. Marseille en a perdu hier soir à domicile face à Nice. Oui. Lille est donc 4e à égalité de points avec Lyon, 3e. Le podium est plus que jamais en ligne de mire pour les Lillois.
Ah, moi j'y crois complètement. On est lancé dans la course, comme tu l'as dit, et on a un calendrier que je trouve encore une fois plutôt favorable. C'est pas simple forcément, mais en tout cas on joue 2 fois à domicile contre des clubs à notre portée, donc le match de Monaco sera peut-être du bonus. En tout cas, faut l'espérer si on arrive à bien figurer à domicile. Et puis on sent l'équipe pleinement investie dans cette course là ce sera un peu plus difficile pour Lyon. En différence de but, on est complètement à égalité, donc à nous de bien finir.
C'est ce que disait Bruno Genesio après cette rencontre face au Paris FC. Parfois, voilà, il faut savoir aussi gagner dans ce sprint final, qu'importe la manière, mais avancer, prendre des points pour suivre le rythme des autres concurrents à l'Europe.
Ah bah, je pense que là, ça va être vraiment le mot d'ordre. Je sais que c'est un peu bateau, mais prendre les matchs les uns après les autres. Ce match face au Havre à domicile, tout le monde pense que ça va être très simple, mais il faut quand même le gagner. Et on connaît la mauvaise habitude du LOSC ces dernières années, parfois à faire des matchs nuls en fin de saison à domicile contre des clubs à leur portée. Donc
on a perdu l'aller.
Ouais.
Ouais. Lens et Lille ont perdu.
À eux de profiter de l'expérience, justement.
Messieurs, avant de repartir au stade de la Libération à Boulogne, dans cet avant-match que l'on vous fait vivre évidemment sur cette Opalico en Ligue 2 entre l'USBCO et l'USLD, je voulais vous faire réagir après le match. Thomas Meunier était au micro du diffuseur. Il a eu sa petite phrase un peu sympa en disant que, avant la fin de sa carrière, il voulait, et c'était même un souhait de sa part, signer dans un club pour évoluer numéro 9, parce qu'il avait un peu des fourmis dans les jambes, le latéral belge lillois. C'est, je trouve, quelque chose de frais de voir un joueur dire, un peu comme un gamin, qui joue au foot, de dire j'ai envie de jouer attaquant pour marquer des buts.
Il est toujours frais, Thomas Meunier. Quand on est journaliste, c'est un plaisir à chaque fois de l'avoir, un super client. Voilà, on sait qu'il est toujours domicilié en Belgique, donc il va sans doute trouver un club, alors peut-être pas la Super l'Air Pro League, mais peut-être un club division inférieure pour réaliser ce souhait.
Oui, non, c'est un super gars et je trouve qu'on sent qu'il prend du plaisir, qu'il a complètement retrouvé un niveau, un top niveau. Il nous fait vraiment du bien là sur l'aile. Je pense qu'il avait dit qu'il pensait pas jouer autant à un moment donné à Lille en signant au LOSC, et finalement, clairement il a sa place et il est numéro 1 sur son côté chez nous.
Ouais, un joueur international bien sûr qui a connu de très grands clubs, une grande expérience européenne notamment au Borussia Dortmund ou au Paris Saint-Germain pour Thomas Meunier. Voilà pour cette partie consacrée au LOSC, Lille qui s'est imposée sur la pelouse du Paris FC hier 1-0, une victoire très importante pour les Lillois dans la course à la Ligue des Champions. Je vous l'ai dit, c'est un Cop Nord spécial ce soir consacré en partie à cette 32e journée de Ligue 2, l'Opalico, le derby entre Boulogne et Dunkerque. On va retourner au stade de la Libération, tiens, avec Vincent Vieillard qui nous plonge encore plus dans les coulisses de cette rencontre. Coup d'envoi à 20h45 au stade de la Libération. On va prendre le pouls d'ailleurs dans les vestiaires, dans les coulisses de ce stade de la Libération. On retrouve Vincent Vieillard qui a promené sa petite caméra avec Théodore Peterson.
Le coup d'envoi de ce derby, c'est tout à l'heure à 20h45. Ici, au stade de la Libération, on est en train de régler le dernier détail. On a une chance incroyable aujourd'hui parce qu'on vous amène dans le vestiaire de l'USBCO, le vestiaire qui est en train de se préparer. On voit notamment Thomas, l'intendant ici, qui est en train d'installer les maillots pour les joueurs. Bonsoir Thomas.
Bonsoir.
Alors c'est quoi le programme pour vous au niveau de chaque match? Il y a un process bien particulier?
Il y a un petit process, on a un petit rituel. Donc nous, en général, quand on arrive par l'arrière du vestiaire, on arrive, on décharge tout. Moi, ce que je fais au début, c'est que je vais faire les arbitres, les
vestiaires des arbitres.
Ouais. Je fais les vestiaires des arbitres et des délégués. Donc je leur mets collation, bouteille d'eau, compote. Et après, on se focus vraiment sur notre vestiaire à nous, sur notre bulle. Donc là, comme vous voyez, on a les maillots. Donc on a tout leur équipement, leurs deux maillots, leurs shorts, leurs chaussettes. À chaque fois, chaque joueur a son emplacement et chaque chose a son emplacement aussi.
Deux maillots, du coup, c'est là aussi un petit peu un rituel?
Oui, on est un petit peu obligé aussi. Donc forcément, ils commencent avec leur maillot. Et on est obligé d'avoir un deuxième maillot, donc on ne sait jamais. Mettons, un joueur se fait tirer le maillot, il se fait déchirer. Un coup, il saigne ou même juste à la mi-temps s'ils veulent changer. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a deux maillots. Toujours pour la sécurité.
Je te laisse continuer du coup à travailler, à installer ce maillot un petit peu particulier, celui-ci, cette semaine. Parce que Léo, c'est pas un joueur de Boulogne cette semaine. C'est une OP un peu particulière, hein, c'est ça, de la Ligue. Tu peux nous en expliquer un peu les règles?
Donc, c'est une opération contre les discriminations. Voilà, donc, où des noms de victimes sont exposés. Donc, c'est pour leur rendre hommage aussi. Voilà, donc chaque joueur a un nom différent pour rendre hommage.
Du coup, tu connais tous les numéros, forcément les joueurs, ils ont tous leur place bien définie dans le vestiaire?
Ouais, ils ont tous leur place, ils ont leur petit rituel. Donc là, admettons, vous voyez, on a Noah Fatar et Mounir Farissi, on sait qu'ils s'entendent bien dans le vestiaire, donc on essaye de les mettre à côté quand on peut.
Parce que c'est stratégique aussi, là aussi, les ententes, il faut les travailler.
C'est ça, puis après on sait, comme ça, on sait qu'on les met dans les meilleures conditions, qu'ils sont là, ils sont prêts, ils sont dans une bonne humeur, et ils sont là pour se concentrer uniquement sur la performance.
Alors on voit à côté le maillot de Blondine Anouke, le gardien, à chacun. C'est Koné.
Ibra Koné, oui.
C'est Ibra Koné, effectivement. Blondine, il est où?
Il est là. Il est là-bas, on n'a pas encore mis le maillot.
Ah, c'est pour ça, effectivement. Donc chaque joueur a sa place. On voit aussi donc le catering dont tu as commencé à parler. Donc il y a aussi des apports qui sont réfléchis là aussi par le club. Comment ça fonctionne?
Oui, ça on voit aussi avec le prépa physique. Donc les fruits, on demande ce qu'ils veulent. C'est de ne pas prendre des fruits qui soient trop pesants dans le ventre. Donc banane forcément. Et après on fait ananas, framboise, myrtille, tous des fruits qui se mangent facilement et qui leur apportent du sucre rapide.
Tu disais, tu connais un petit peu les amitiés les plus fortes ici au sein du vestiaire. Est-ce qu'il y a aussi des petites manies, des petites habitudes que toi tu as pu noter, souligner et que tu dis ça peut rentrer dans toi, ta mise en place?
Forcément. Pas forcément. On connaît les joueurs, ils ont leurs petits rituels mais qui changent pas forcément nous, notre façon de travailler. Donc on fait pareil pour tout le monde.
Toi, tu viens de où? Ça fait combien de temps que tu fais ce métier?
Moi, ça fait pas très longtemps. De base, j'étais pas du tout dans le milieu. J'ai fait un BTS MCO, donc j'étais dans le commerce, vraiment rien à voir. Et j'ai eu une offre. Voilà, j'ai vu une offre, j'ai postulé. J'ai eu un entretien avec le team manager et tout s'est bien passé. Du coup, j'ai commencé ici en septembre.
Et du coup, comment tu l'as vécu, toi, cette saison?
C'était très intéressant. C'est ma première saison, première fois que je travaille dans le milieu du sport. Et c'est super intéressant, c'est super enrichissant. Et c'est surtout, c'est une super expérience humaine.
Et on a donc les joueurs qui vont bientôt arriver ici avec tous les équipements mis en place par Thibaut. Merci beaucoup. Donc bon courage pour ce qui reste à faire, parce qu'il reste encore donc quelques maillots à accrocher. Ici ensuite, il y aura la prise de parole du coach Fabien Dagneau. Et puis on n'oublie pas aussi ces panneaux. Ça, on est sur des monuments d'histoire ici du côté du stade de la Libération. À la Libé, on ne lâche rien. Ça date il y a au moins une quinzaine d'années, hein, si je ne dis pas de bêtises, de l'époque où Boulogne est remonté en Ligue 2, Ligue 1. Effectivement, ça fait partie des monuments ici. Qui montre bien que le stade de la Libération est un stade historique ici à Boulogne-sur-Mer.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Vincent Vieillard de nous avoir plongé dans les coulisses des vestiaires de l'USBCO. On vous retrouvera bien sûr tout au long de ce Cop Nord pour prendre la température du côté du stade de la Libération. On retrouvera notamment les deux coachs tout à l'heure de l'USBCO et de l'USLD. Mais après avoir parlé du LOSC, on va s'attarder bien sûr sur peut-être l'un des matchs de cette journée de Ligue 1. C'était vendredi soir en ouverture de la 31e journée. Lens en déplacement du côté du stade brestois, du côté de Francis Leblay, un match nul spectaculaire. 3 partout alors que les Lensois étaient menés 3-0 à la pause face aux Brestois. Des Lensois renversants qui étaient même tout proches d'aller arracher la victoire dans le temps additionnel. Retour sur les meilleurs moments de cette rencontre avec Emmanuel Calafiore et les équipes d'RMC Sport.
Lens aurait-il réalisé la remontée de la saison face à Brest ? Avec un 11 de départ remanié, les Artésiens sombrent en première période, 3-0 à la pause. Pierre Sage, furieux, réalise 4 changements simultanés. Florian Thauvin relance les Lensois juste avant l'heure de jeu, suivi quelques minutes plus tard par Abdallah Sima. Les Sang et Or poussent en fin de match. Alain Saint-Maximin égalise dans le temps additionnel. Lens est passé du calvaire au spectacle et sauve le point du nul.
Je vous avoue que j'ai eu des mots très durs à la mi-temps et je me suis senti un peu trahi. C'est un mot qui est très fort, mais je donne. J'ai donné du temps de jeu, j'ai voulu apporter de la fraîcheur. Et je vous avoue que je n'ai pas eu en retour ce que j'attendais. Et habituellement, je parle souvent du staff en disant nous, et là je parle vraiment de moi et du fait que j'ai pris la décision de faire des rotations. Et c'était une erreur ce soir.
Voilà, les mots très durs de Pierre Sage à l'issue de cette rencontre. Je me suis senti trahi. Des mots forts pour l'entraîneur lensois. Tony, un scénario renversant. 3 buts partout. C'est quoi ? C'est un bon point de prix pour les Lensois ou 2 points de perdus dans la course à la Ligue des Champions ?
C'est un très mauvais point et c'est 2 points de perdus, effectivement. À 5 matchs de la fin de la saison, tu n'as pas le droit de faire tourner ton équipe. Alors effectivement, on a joué il y a 48 heures et il se dit « bon, je vais mettre un peu de sang frais ». Mais tu regardes Paris, tu regardes Marseille, tu regardes Lille, jamais les équipes-là ne font tourner sur des gros matchs. À 5 matchs de la fin, tu avais 8 points d'avance avant le match-là, tu dois repartir déjà avec les 3 points, c'est une obligation. Et tu le vois quand les joueurs cadres rentrent, c'est plus le même match en fait. Il n'y a plus d'équipe en face, on les aspire, on les écrase au milieu de terrain, on les accule derrière leur but. Après c'est tout, ils se sont trahis, mais moi je me sens trahi aussi. Je pense que tous les supporters lensois se sont trahis de ce qu'il a fait. Parce que moi je l'en veux au joueur en fait hein, et je l'en veux à lui, peut-être plus à lui qu'au joueur, parce que les joueurs bon tu les mets sur le terrain, ils peuvent bouder de temps en temps, mais c'est pas notre problème en fait. Nous on veut qu'ils gagnent et là je pense que là vraiment il a fait une très grosse erreur, parce que là bon, on laisse revenir Lille, on laisse revenir Lyon. Et 6 points, c'est très peu sur les 4 derniers matchs.
On rappelle qu'Arthur Massouakou, Ruben Aguilar, Florian Sotoka et Wesley Saïd avaient été alignés d'entrée par Pierre Sage quelques heures à peine après la qualification. Avec beaucoup d'émotion pour la finale de la Coupe de France. Tao, est-ce qu'il a fait trop tourner Pierre Sage?
L'effet et lui-même dit que oui, dur de dire non à cette question. Mais c'est surtout le fait que. Qu'il ait déjà fait cette erreur à Metz.
Ouais. À Toulouse, vendredi, il y a 2 semaines, il y a une semaine.
Voilà, c'est impressionnant aussi la différence. Et c'est ça qui est un peu frustrant, c'est que certes, Lens va faire deuxième. Souvent, quand une équipe fait deuxième, surtout avec des moyens comme ça, c'est que c'est une vraie équipe et qu'il y a un gros banc. Le banc qui était titulaire n'a pas répondu présent. Non. Voilà, on aurait envie de dire que c'est une piqûre de rappel, mais là il est un peu trop tard pour ça. Donc gros coup dur, mais bon Pierre Sage aussi c'est un jeune coach entre guillemets et ça va le faire progresser ça aussi.
Tony, c'est l'un des enseignements aussi de ce déplacement à Brest. L'effectif lensois, en tout cas pour le très haut niveau pour jouer la deuxième place, est limité. Il y a des joueurs, qui n'auront sûrement plus tant de jeux d'ici la fin de saison.
Déjà, il faut dire une chose. Avant le début de saison, on n'était pas calibré pour être deuxième. On voyait Lens entre la sixième et la douzième place. C'était allez, même 8-12.
Dixième budget, on le rappelle.
Voilà. Ouais. Donc on s'est dit, Lens, avec les gros changements qu'il y a eu, on finira entre 8 et 12. Au final, on se retrouve à jouer deuxième toute la saison, à titiller le PSG. Et aujourd'hui, ben, le banc de Lens... Tu peux pas jouer une Coupe d'Europe avec une équipe comme celle-ci. Alors avec l'équipe titulaire, bien sûr, mais tu peux pas jouer deux matchs par semaine avec la même équipe. Tu le vois déjà là, ça reste quand même déjà très limité. Donc on va devoir recruter fortement pour avoir un banc de qualité, parce qu'il y a des bons joueurs, mais de Ligue 1. Quand il y a des matchs qui sont très serrés, ben, tu sens que ben, les joueurs qui jouent un peu moins, ils ont moins de rythme aussi. Donc ils sont peut-être très bons, mais ils ont moins de rythme aussi. Donc c'est plus difficile. Donc effectivement, je te réponds, non, on n'est pas calibré pour jouer deux fois par match.
Qu'est-ce que ça inspire, Maxime, ça, côté supporter lillois, mais d'entendre un coach dire j'ai voulu donner du temps de jeu à certains joueurs qui sont dans la rotation, mais voilà, il a fait une erreur, il le reconnaît. En tout cas, la communication est transparente de la part de Pierre Sage.
C'est sa grande force, je trouve, Pierre Sage. On ne peut pas lui enlever ça. Il reconnaît quand il se trompe. Après, moi, je vous trouve un peu dur quand même. Je trouve que en début de saison, on le disait, tous les joueurs étaient au diapason et savaient se mettre au niveau à Lens. C'était la grande force de Lens. Hein. Il y a eu quelques changements un peu forcés avec les blessures, mais tous les joueurs ont à chaque fois réussi à élever leur niveau de jeu.
Un ou deux joueurs. Là, quand on change 5 sur 11,
ouais. Et l'ossature,
elle est quand même bien bougée. Hein.
Mais le débat sur le calendrier, avec on joue tous les 3 jours, on n'y arrivera pas, etc., le match décalé du PSG, on ne peut pas... Alors évidemment, le score final donne raison à ceux qui disent qu'il fallait garder le 11 type, mais on peut pas reprocher à Pierre Sage de ne pas avoir essayé quand même de soulager peut-être certains joueurs qui en avaient besoin. Hein. On l'a dit pour Genesio, il connaît son effectif sûrement mieux que personne. Peut-être que un Thauvin ou un Hudson-Edouard avait besoin de souffler un peu. On ne sait pas. En tout cas, évidemment, après le match, tu peux te dire qu'il n'a pas eu raison, il l'a reconnu.
Moi, Tony, il y a eu ces 4 changements à la 53e minute de jeu. Masuaku, Aguilar, Sotoka, Saïd sont sortis, remplacés par Baïdou, Abdoulhamid, Saint-Maximin et Thauvin. Ça a tout changé dans l'envie lensoise, dans la capacité à mettre du rythme, à mettre la pression sur la surface de réparation brestoise. Ça n'a rien eu à voir, c'était le jour et la nuit.
Techniquement, c'était très juste. Les joueurs en un contre un, on allait chercher les latéraux de Brest en un contre un, donc automatiquement, on les a fait reculer. Hein. Là, on les regardait jouer, on coulissait, on marchait à moitié. Donc oui, les 4 changements ont fait du bien. Sima aussi, hein, on peut le mettre dedans parce qu'il sort 10 minutes après. Mais moi, je pense, j'aurais même... Tu vois, on parle de effectivement qu'il fait 5 changements, mais Lens joue quand même 48 heures après. Moi, je comprends pas pourquoi Lens ne joue pas le dimanche.
Alors,
c'est pas un match.
C'est sûr.
Et là, je suis sûr qu'il mettait son équipe type.
C'était l'un des combats de Pierre Sage, oui. Il demandait pourquoi le match était le vendredi soir, alors que la demi-finale de Coupe de France était le mardi et pas le samedi ou le dimanche.
C'est vrai que Lens n'est pas épargné par le calendrier sur la fin de saison. Et en plus, on vient mettre le match.
Je pense qu'à 2 jours, tu rajoutes 2 jours de plus de préparation, de repos. Je pense que déjà là, parce que là, ils ont eu un seul entraînement depuis qu'ils ont fini le match.
Entre la finale.
Après, il faut digérer quand même aussi l'exploit, l'ambiance dans le stade.
J'ose espérer que ce choix de la Ligue n'était pas d'avancer les matchs de Lens pour leur donner un avantage, entre guillemets, de mettre la pression
premier,
sur le PSG. J'espère que c'était pas ça, parce que sinon, c'est catastrophique.
C'est horrible. Hein. Ouais. Donc je pense que c'est ça qu'il faut surtout relever. Et je pense qu'il n'aurait peut-être pas fait cette erreur-là.
Ce qu'on note aussi à l'issue de cette rencontre, c'est qu'on l'a dit, il y a des joueurs qui ont perdu des points. Masuaku a été clairement en difficulté. Aguilar, qui revient de blessure, a du mal à reprendre du rythme. Et surtout, devant Tao, il y a des joueurs qui ont marqué des points. Alain de Saint-Maximin, arrivé au mercato d'hiver, est-ce qu'il a gagné sa place pour les matchs qui vont compter de titulaire, à savoir la finale de Coupe de France, à savoir le match face au PSG? Il y a peu de doute là, vu son entrée.
Moi, depuis le début de la carrière de Saint-Maximin, je suis assez critique envers lui. Je trouve que c'est un joueur qui est très irrégulier dans ses performances. Là, pour cette fin de saison lensoise, on voit qu'à chaque rentrée, il bouge, il fait des différences.
Et peut-être, techniquement.
Ouais. Et peut-être que dans certains matchs de Lens, on disait que certains joueurs étaient un peu trop sages, quand c'était des blocs trop bas, que personne n'arrivait à provoquer la décision. Tu vois que lui, il est dans la provocation constante.
Son but égalisateur en est le parfait exemple.
Et il en fait quelques-uns. Il a 2 ou 3 actions où il fait la même chose.
Et il met le poteau là. Il met le poteau à 30 mètres.
Donc, oui, c'est vraiment l'illustration de la provocation. Et quand ça fonctionne, c'est un joueur magnifique, tout simplement.
Ouais. Maxime, côté Lillois, il y a un ça aussi avec Fernandez Pardo, même si depuis quelques semaines il a été réaxé, donc on voit un peu moins ses qualités de percussion sur un côté, mais avoir un joueur déséquilibrant comme ça dans une équipe, forcément c'est un atout incroyable.
Ah, ça fait du bien, hein. C'est sûr que c'est, quand ça pousse comme ça, après il rentre, il a envie de montrer en plus, hein, il a envie de gagner sa place de titulaire, ouais. Donc là on voit qu'il est mort de faim. Puis c'est un joueur qui est physiquement impressionnant et puis techniquement là sur son but là, le crochet qu'il fait, il rentre, il décroche sa frappe, elle est précise, enfin non, il n'y a rien à dire, hein. c'est un beau joueur
qu'il faut, c'est impeccable.
Et je sais pas si vous avez peut-être perçu cette image, une fois qu'il avait marqué, il vient vers le banc Alan Saint-Maximin et on semble lire sur ses lèvres un « je vous avais dit quoi » vers son banc, vers son staff. Est-ce qu'il a été vexé d'être sur le banc, Tony ou...
Non, je pense qu'à la mi-temps, il a dit « vous inquiétez pas, je vais rentrer, je vais marquer ». C'est un mec assez hautain, on le voit qu'il aime bien aussi se montrer, après c'est son rôle et il a toujours été comme ça depuis sa carrière. Donc quand il était à Nice, à Newcastle, il était sûr de lui, bon. Il avait prévenu qu'il allait marquer et puis voilà, il a fait ce qu'il a fait. Puis en plus, pour le 3-3, donc ça permet de rassurer quand même tout le monde. Mais compliqué à regarder, hein, quand on est Lensois, franchement, même le troisième but à l'égalisation, j'étais pas content. Quoi, donc,
ouais, mais on sent, c'est vraiment dommage parce qu'on sentait que 5 minutes de plus, 7 minutes de plus, il allait avoir un but, deux buts tellement il poussait fort.
On passe à ça du quatrième. Hein.
L'écart était trop important.
Oui. Ouais. Sur la dernière action, il y a un nouveau centre. Hudson Edouard qui place une tête et il y a une énorme parade de Grégor Couder.
Il retire au-dessus derrière encore. Hein,
ouais, bien sûr.
C'est Saint-Maximin qui centre.
Et c'est Saint-Maximin qui centre. Et Grégor Couder, le portier brestois, fait un super match parce que voilà, il a sorti énorme parade. Sinon, ça aurait pu faire un 4-3. On a parlé du bon côté, de la bonne période côté Lensois, à savoir la seconde. La première a été catastrophique. Il y a 3-0 à la pause, avec des largesses défensives assez impressionnantes, notamment sur le deuxième but avec Ludovic Ajor qui part seul en profondeur. Il peut remettre à Adina Ebimbe, entrée de la surface de réparation, qui trompe Prisser. Est-ce qu'on s'inquiète quand même de la défense lensoise? Ça fait plusieurs semaines que c'est compliqué.
Ben ouais, moi je m'inquiète parce que déjà, on l'avait vu avec Celic, il a fait un bon début de rentrée. Il a eu du mal, mais il a plus été bon. Après, on l'a vu par la suite, après Lille, ça a été très compliqué. Ouais. Et il a été sorti du groupe. Là, on récupère Baïdou. Mais moi, c'est comme je dis toujours, une blessure, quand tu es blessé un mois, il te faut un mois pour revenir physiquement derrière. Donc Baïdou revient tout doucement. On parlait d'Aguilar tout à l'heure. Ben, pareil pour lui, il a du mal à revenir, mais il était blessé plus d'un mois. Donc là, je pense qu'on va commencer à avoir un Pierre Sage qui va laisser sa défense. Il va plus bouger. Les cinq, ils vont plus bouger. Et là, on va retrouver une solidité, bizarrement, qui sera même sûr et certain. On verra sur les derniers matchs. Mais,
c'est ça, voilà. Tu demandais est-ce qu'on est inquiet. Au final, pas tant que ça, parce que quand il y a la défense type, Lens c'est plutôt très solide, mais dès qu'il y a des petits changements, l'absence de Baïdou a fait mal aussi, forcément ça coince un petit peu. Là encore, la rentrée de Baïdou, c'est un patron, même s'il avait un client à Jort qu'il a parfois mis en difficulté, mais il n'y a pas eu de but encaissé, donc ouais, très très solide.
On va suivre ça évidemment côté Lensois. L'information aussi du week-end pour le Racing Club de Lens, c'est que les Lensois sont assurés de finir dans le top 4 de cette Ligue 1, parce qu'il y aura notamment la confrontation entre Lyon et Rennes d'ici la fin de saison. Lens a assuré au moins un top 4. Voilà, au fil des journées, Lens assure petit à petit des paliers. Il y a eu l'Europe, maintenant le top 4, Tony. L'objectif maintenant, si Lens n'arrive pas à accrocher avec des champions directs, ça serait... vraiment une catastrophe, quasiment.
Ça serait une catastrophe. Après, on aurait pu se rendre les choses plus faciles avec les deux derniers matchs. Hein. On aurait pu se rendre plus facile. Après, c'est tout. On va devoir aller grappiller des points à Nice, qui est en pleine forme aussi. Qui ont été gagnés à Strasbourg. Là, qui gagnent et qui vont chercher un gros nul à Marseille. C'est quand même. Faut aller chercher des points à costaud. Donc là, on va avoir un match très difficile. Donc là, on verra si Lens a des ressources.
Oui, effectivement, ça va être important dans cette fin de saison lensoise. Il y aura un autre match, évidemment, capital, que tout le monde attend du côté du Racing Club de Lens. C'est cette finale de Coupe de France le 22 mai prochain au Stade de France face à l'OGC Nice. Attention d'ailleurs, supporters lensois, vous le voyez, il y a des arnaques aux faux billets et aux faux sites internet notamment qui sévissent sur les réseaux sociaux et sur le web. Vous voyez par exemple cette capture d'écran d'un faux site pour réserver ses billets. C'est très bien fait, hein. C'est quasiment copie conforme du site de réservation du Stade de France, mais pourtant c'est un faux, donc attention à ne pas vous faire avoir. Il faut passer par les canaux de vente évidemment certifiés. Pour l'instant, pas de vente grand public pour ces billets. On sait que c'est la chasse aux billets, hein, que ce soit par les sections de supporters, par les associations, tout le monde essaye d'avoir ces billets, et on va suivre ça bien sûr dans les prochaines semaines. Avant de passer et de retourner du côté du Stade de la Libération à Boulogne pour parler de cette Opalico, le point bien sûr sur le classement de cette Ligue 1 après avoir parlé parlait du LOSC et du Racing Club de Lens, on parlait des enseignements du classement. Vous le voyez donc avec le PSG toujours en tête, 6 points d'avance sur le Racing Club de Lens. Les deux clubs vont se jouer d'ici les prochains jours. Lyon 3e avec 57 points, égalité donc avec le LOSC 57 points, Lille 4e, Rennes 5e 56 points, et puis Marseille et Monaco commencent à être un petit peu distancés derrière, Strasbourg également, Lorient et Toulouse pour compléter ce top 10. Le programme justement de la prochaine journée avec notamment cette course à l'Europe hein, qui va continuer à s'intensifier. Vous voyez donc le déplacement de Marseille à Nantes, ça sera samedi à 15h. Monaco ira du côté de Metz, la lanterne rouge. Un match très important pour le Racing Club de Lens, 21h05 sur la pelouse de l'Alliance Riviera. Et puis le lendemain, dimanche, Lille accueillera le Havre. Il faudra prendre des points pour les Dogs pour poursuivre leur bonne série. Et puis pour finir cette journée, Lyon accueillera Rennes au Groupama Stadium entre deux équipes qui vont tenter bien sûr d'accrocher la Ligue des Champions d'ici cette fin de saison. Je vous le disais, on va enchaîner bien sûr, on va retourner du côté du stade de la Libération à Boulogne-sur-Mer. C'est jour d'Opalico, 32e journée de cette Ligue 2. Oui, on va retrouver Vincent Vieillard qui va être donc auprès de Fabien Dagneau dans quelques secondes, l'entraîneur de cette formation de l'USBCO en avant-match bien sûr pour évoquer cet Opalico. Messieurs, avant de retrouver Vincent, on a eu un petit souci avec Vincent que l'on va retrouver dans quelques secondes. Cette course à l'Europe, oui, on en parlait avant de passer sur l'Opalico. Voilà, cette prochaine journée, elle va être très importante. Tony, notamment pour le Racing Club de Lens, un déplacement à Nice. Et ça va être aussi psychologiquement important avant la finale de la Coupe de France.
Tout à fait, ça va être très important. Après, il va y avoir de la casse hein, ce week-end. Hein. On voit qu'il y a des gros matchs. Et puis pareil, hein, Lille, Le Havre, on ne s'est pas fait parce qu'ils veulent se sauver. Nous, effectivement, on a un gros match parce que Nice veulent sortir aussi un peu de la zone rouge hein, parce qu'ils sont à 5 points, je crois.
Ouais, Nice n'est pas maintenu encore.
Le Havre ne sont pas maintenus. Et puis, effectivement, il y a aussi l'avantage psychologique avant cette finale de Coupe de France. Et puis, surtout, si on perd là, derrière, tout le monde nous rattrape. Donc, il va falloir aller faire un gros match à Nice. Et c'est là, je pense que là, les joueurs et le coach ont... Voilà, ils vont devoir se faire un peu
violence
et de plaisir aux supporters parce que là, sur les derniers matchs, ça a été moins ça, quoi.
Et donc, Maxime, côté Lillois, il y a ces deux dernières réceptions en cette fin de saison. Le Havre, donc, ce week-end. Et puis, il y aura Auxerre lors de la dernière journée. Il faut prendre 6 points, là.
Oui, il faut prendre 6 points à domicile. Après, le dimanche prochain, ça va être vraiment sympa. Moi, je pense qu'on reprend la 3e dimanche prochain. Ouais. On bat le Havre et puis avec la confrontation directe Lyon-Rennes, il y a possibilité d'aller chercher la 3e.
Il y a Lyon-Rennes, Lyon-Lens et Marseille-Rennes en dernière journée.
Ouais,
donc,
quand même.
Les clubs vont se manger entre eux et donc c'est une vraie opportunité.
Le dernier match, ça sera peut-être de la pipée. Le dernier match.
Oui, aussi, peut-être aussi. Que d'ici là, ça sera terminé et que Lens pourra aussi aborder sa finale de Coupe de France. Allez, on va partir à la Libération, retrouver Vincent Vieillard. Vincent, donc à quoi ? Un peu moins d'une heure et demie du coup d'envoi de cet Opalico entre l'USBCO et l'USLD. Vincent, il y a des vrais enjeux aussi de sécurité hein, autour de cette rencontre. On sait que c'est un derby qui est chaud entre les supporters et il faut que ce match se passe dans les meilleures conditions, Vincent.
Oui, effectivement, c'est un derby qui est désormais malheureusement chaud et on va en parler avec Jérôme Fouble, le directeur général du club. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, effectivement, parlons déjà de ce qui est en train de se mettre en place. On voit les supporters boulonnais dans chacune des tribunes qui ont organisé une petite animation pour le début de la rencontre parce que c'est un match forcément spécial, surtout pour vous au sein du club.
Exactement. Alors, c'est un match spécial, oui, parce que c'est un derby. Après, nous, on souhaite et on fait depuis plusieurs années de la Libé un endroit de vie et de fête, un endroit sportif, mais aussi un endroit de rencontre intergénérationnelle, multigénérationnelle. Il y a beaucoup de familles qui sont présentes, enfants, petits-enfants. Et on veut que ça reste un endroit de fête autour du sport, autour du foot. Et c'est ce que les supporters ont mis en avant sur ce match-là. C'est l'occasion, sur cette fin de saison, de continuer à fêter le match-là maintenant, en plus, sur ces deux rencontres qui nous restent à domicile. Donc, plutôt agréable pour tout le monde.
Donc, ça, c'est pour l'avant-match. L'après-match aussi, il y a peut-être quelque chose de prévu pour faire célébrer ce maintien ?
Pas aujourd'hui. On va attendre la semaine prochaine. Samedi, on sera le week-end, ce sera plus facile à fêter. Et puis, on aura de nouveau un stade comble samedi. Donc, on va attendre samedi pour fêter le maintien et la montée, puisqu'on ne l'a pas fêté l'an dernier. Donc, on prépare une petite fête pour samedi soir.
Oui. En plus, il y a plein d'anciens boulonnais à Annecy, donc ils pourront peut-être participer à la fête. Mais parlons déjà de cette fête ce soir. On voit derrière vous les joueurs qui sont en train de reconnaître la pelouse, tester les ballons. Et puis, derrière eux, il y a cette fameuse tribune visiteur. On attendait 300 Dunkerquois. Apparemment, ils sont peut-être un peu moins ce soir.
Oui, il y a un bon 200 supporters d'un Dunkerquois qui est présent ce soir. Donc
bien encadré.
Et bien encadré, bien sûr, c'est beaucoup de forces de l'ordre, un dispositif de police important. C'est, voilà, je dirais que c'est pour la sécurité de tous et c'est un choix qui est fait des autorités. Nous, on accompagne et on est responsable de l'organisation, mais sur la partie hors match et hors terrain, bah, il y a toute la partie forces de l'ordre qui ont un coût pour le club. Maintenant, ça fait partie du football professionnel aujourd'hui. Il faut s'y plier et puis être le plus exigeant possible en termes de sécurité parce que ça reste un match de foot et tout doit bien se dérouler de A à Z.
Justement, vous confirmez la somme de 40 000 euros qui a été annoncée dans les médias. Comment ça s'est réparti un peu ce montant ?
Voilà, la somme de 40 000 euros, on sera certainement un petit peu au-delà sur l'organisation du match de ce soir avec une autre agence de sécurité ACO qui est aujourd'hui l'agence de sécurité qui gère la sécurité sur chaque match ici. Donc on est un peu plus de 55 agents aujourd'hui, ce qui est un dispositif assez important pour un stade de 5 000 personnes. Maintenant, c'est un dispositif qui a déjà eu lieu chez nous sur le championnat quand on est complet. Et puis par contre, on a des forces de l'ordre qui sont sur un système inédit. Donc ça, la note totale, je ne peux pas vous la donner parce qu'on l'a après les matchs, mais on sera aux alentours de 40 000 euros. Sur la partie force de l'ordre. Oui.
Avec l'objectif, évidemment, c'est de ne plus revivre ce qui avait été vécu, notamment lors du match de Coupe de France.
Exactement. Même si lors du match de Coupe de France, on avait déjà un très gros dispositif. Il était pas loin de celui d'aujourd'hui, mais on est encore sur un dispositif plus important aujourd'hui. Et il faut. Mais c'est pas les forces de l'ordre qui peuvent faire ça, c'est les gens, c'est le public. Aujourd'hui, c'est vraiment ça qui est important, c'est que tout le monde soit conscient qu'on vient passer une soirée foot, une soirée de fête, un derby, oui, mais un derby sportif, et que les supporters. Que ça chambre, que ce soit la fête, que ce soit animé, c'est très bien, mais que ce soit une fête du foot et des endroits populaires où on peut se retrouver entre famille, en enfants, des partenaires, des supporters, tous les publics qui tournent autour du football aujourd'hui, de faire du foot un moment de joie, ce qu'on fait nous depuis 4 ans, il faut que ça continue comme ça.
C'est ce qu'on souhaite donc à l'USBCO qui se maintient. Juste un mot, puisqu'on a parlé de sportif, merci beaucoup Jérôme Fouble. On a l'entraîneur adjoint de l'USBCO, Anthony Lecointe, qui nous rejoint. Qu'est-ce qui s'est passé, Anthony ?
Je me suis rompu le tendon d'Achille. Mais total. Donc,
la carrière de footballeur est finie depuis longtemps.
Oui, mais bizarrement, c'est que je me blesse quand j'arrête de jouer. Mais bon, c'est comme ça.
Bon, en tout cas, ça t'empêchera pas d'être sur le banc ce soir.
Non,
tu t'attends à quel genre de match ?
Ah, je m'attends avec un. Je pense que nous, on a à cœur de gagner à domicile. Et je pense que Dunkerque, on a à cœur de se rattraper par rapport au match. Avant. Donc je pense que ça va être un bon derby. Donc j'espère qu'il sera dans de bonnes conditions autour du terrain. Parce que c'est vrai que on garde le match de Coupe de France, c'était un peu houleux. Donc j'espère que autour du terrain, ça va rester très très respectueux.
Et c'est un peu spécial pour toi en un mot, toi qui as joué à Boulogne, toi qui as joué à Dunkerque, forcément. Ton cœur, il est de quel côté aujourd'hui ?
Ah bah évidemment, je suis boulonnais, donc je suis côté boulonnais. Alors Dunkerque, je garde des bons souvenirs, j'étais très bien accueilli là-bas, donc je garde encore des amis là-bas, mais mon cœur est boulonnais.
Ce soir, et donc c'est tout ce qu'on souhaite effectivement pour Boulogne-sur-Mer de pouvoir s'imposer ici ce soir, même si l'information peut-être la plus importante aujourd'hui, c'est que Boulogne est maintenue officiellement en Ligue 2 pour l'année prochaine. Et on se quitte quelques instants, une courte page de pub, et on sera de retour ici au Stade de la Libération pour continuer de suivre la préparation de ce derby dont le coup d'envoi est prévu tout à l'heure à 20h45. Retour ici au stade de la Libération, stade de la Libération qui se prépare, hein, puisque tout à l'heure le coup d'envoi c'est donc à 20h45. On a pu voir les joueurs boulonnais venus découvrir, reconnaître cette pelouse qu'ils connaissent évidemment par cœur, puisque ils se sont encore entraînés ici ce week-end. Les Dunkerquois, eux, sont arrivés dans le vestiaire. Vous le voyez aussi sur ces images de Théodore Peterson. Regardez ces supporters bénévoles qui sont en train d'installer tout ce qui est tifo, avec donc une animation prévue. Ce soir donc dans les tribunes des deux côtés de la pelouse du stade de la Libération. Ensuite, on attend aussi donc à peu près 200 supporters dunkerquois. C'était l'info que nous a donné il y a quelques instants Jérôme Fouble, le directeur général du club, sur donc ces supporters dunkerquois qui vont faire le déplacement, mais qui sont peut-être surveillés comme le lait sur le feu. D'ailleurs, on va en reparler, hein, de ces supporters dunkerquois avec Cyril Frémin de Delta FM. Le déplacement des dunkerquois, moins de supporters que prévu. On avait parlé justement des tensions du côté des Dunkerquois, ce qui explique donc le nombre de forces de l'ordre très important ce soir.
Oui, on rappelle, hein, les derniers événements, une vidéo malheureuse qui est arrivée après le dernier match de Dunkerque. C'était face à Laval. Et puis on a eu un discours d'un membre des Ultras. C'était un discours qu'on n'a pas trop compris, avec des mots qui semblent d'une autre époque. On a parlé d'enculé pour évoquer les USBCO, on a parlé aussi de consanguin. Franchement, c'est des mots qui sont... Enfin, c'est fini, ça, quoi, normalement. Et c'est vraiment dommage, parce que ce soit l'USBCO, que ce soit l'USLD, cette saison, on a pris beaucoup de plaisir de venir dans ces stades à la Libération, à Tribu, parce qu'on avait... Bah, déjà, on a eu du jeu des deux côtés. Franchement, c'était une saison qui était très agréable sportivement. Et en termes de supporters, franchement, que ce soit les ultras d'Inkerquois ou même ici à la Libé, ils mettent l'ambiance. Franchement, cette saison en Ligue 2, les deux plus grosses ambiances, en tout cas deux des plus grosses ambiances, c'était à Dunkerque, c'était à Boulogne. Et donc on n'a pas trop compris ce discours, se chambrer entre supporters voisins. C'est normal, mais je pense qu'il y a d'autres moyens de le faire que ces insultes gratuites, des insultes qui sont venues franchement du siècle dernier. En tout cas, je pense qu'en partie, ce sont ces insultes et toutes les conséquences qu'il y a eu d'ailleurs qui expliquent ce gros dispositif de sécurité ce soir.
Cyril, on est à 1h20 effectivement du coup d'envoi ici au stade de la Libération. On a croisé des Boulonnais, on a des bénévoles qui nous ont confié un petit peu que les joueurs boulonnais étaient plus tendus qu'à l'habitude. Comment tu les as sentis, toi, les Boulonnais qui sont entrés, qui ont découvert la pelouse?
Bah, c'est vrai que ce sont des joueurs qui sont très agréables. Hein. Régulièrement, on les croise, que ce soit après les matchs, les conférences de presse, et on a toujours un bonjour pour tout le monde. Là, voilà, ils ont traversé les coursives vraiment avec la tête en bas, assez peu de bonjour aux autres, alors que d'habitude, vraiment, ce sont des garçons qui sont volubiles. On sent qu'on a envie de réussir ce qui va être l'une des dernières de la saison à la maison. On rappelle, c'est l'avant-dernier match à domicile. La semaine prochaine, samedi prochain, il y aura Annecy. Mais donc, c'est l'avant-dernier match. C'est le derby. Encore une fois, on le rappelle, hein, il y a une petite revanche à aller chercher, parce que pour l'instant, l'avantage, il est plutôt au Dunkerquois. Il y avait eu match nul de dingue d'ailleurs à Dunkerque à la dernière seconde. Rebelote ensuite à la Libération. Mais finalement, les Dunkerquois avaient gagné au tir au but. Donc, on a envie de faire chacha. Puis il y a encore... Mathématiquement, il n'y a que 4 points d'écart entre les deux équipes. Donc si Boulogne gagne ce soir, il n'y aura plus qu'un match. La dynamique, elle est clairement pour les Boulonnais. Donc c'est normal, on a envie évidemment de faire plaisir à ses supporters sur ce match. Et puis en plus, encore une fois, hein, les supporters, ils ont bien mérité des deux côtés. Mais voilà, comme on est à la Libé aujourd'hui, les supporters, évidemment, ils ont bien mérité une victoire de leurs joueurs.
Il y a donc un challenge ce soir, vous l'avez bien compris. Boulogne peut-il revenir à un point de Dunkerque? Pour le savoir, eh bien, il faudra attendre le coup d'envoi tout à l'heure à 20h45 ici au stade de la Libération, un stade de la Libération qui, vous voyez, est en train tout doucement de se remplir, à l'exception effectivement de cette tribune qui sera celle des visiteurs dunkerquois, où on attend à peu près 200 personnes et qui sera évidemment surveillée comme le lait sur le feu, avec un dispositif très impressionnant. On a parlé de plus de 40 000 euros tout à l'heure avec le directeur général Jérôme Fouble il y a quelques instants. Alors vous, messieurs, en plateau, qu'en pensez-vous? N'est-ce pas dommage de devoir mettre en place un tel dispositif dans un match à l'enjeu sportif absent, et surtout quand ce sont deux voisins qui s'affrontent?
Oui, merci Vincent. Effectivement, messieurs, c'est dommage quand même d'avoir autant de tensions. Évidemment, la rivalité, elle existe. On peut se chambrer, on peut se chamailler un petit peu. Mais là, voilà, on va en reparler évidemment en détail. On a dépassé les bornes, notamment de la part des supporters dunkerquois. C'est dommage de mettre autant de moyens, de payer aussi cher, au propre comme au figuré, le prix de ces débordements vraiment extrêmement dommageables.
Ouais, c'est dommage, mais après, c'est la réalité du moment, c'est la réalité des supporters. C'est-à-dire que dans des groupes de supporters, vous avez toujours 10-20% des supporters qui vont dépasser les limites. On l'a vu encore, Lille-Lens, on a vu que Thauvin a pris pour son grade pendant 45 minutes. On l'a vu dans plein de matchs contre le PSG, il y a des insultes. Et dans le derby, sauf dans les derbys, les supporters, ils veulent la rivalité. Hein. Le lundi, ils vont au travail et puis ils disent aux collègues, t'as vu, on a gagné. Ouais, c'est dommage, mais en même temps, c'est le foot, en fait. Hein, c'est le foot populaire. Et on peut en parler là, mais on en reparlera l'année prochaine et les années suivantes, et ça changera pas, en fait. Donc, à moins de les supprimer, de les radier, ces gens-là.
C'est compliqué parce qu'on aime bien la rivalité, et c'est vrai que la rivalité régionale, la suprématie, là on parle de Palico, etc., c'est génial de vivre ça. Et après, il faut trouver le bon équilibre, évidemment, et pas basculer dans.
Non, mais voilà, parce que messieurs, il y a rivalité, ok. Mais il y a rivalité et propos injurieux et propos répréhensibles. Mmh. On peut très bien faire des tifos, des animations, des chants, faire monter un petit peu la température, craquer 2-3 fumigènes à l'entraînement. C'est tout à fait compréhensible pour un derby. Ça se voit partout en France et en Europe. Mais quand on dépasse les bornes, c'est autre chose. On parle d'autre chose.
Qu'est-ce
encore.
Qu'est-ce qu'on se dit alors, Thomas ? C'est-à-dire aujourd'hui, on sait que c'est 10% ou c'est quelques individus. Ouais, c'est une minorité, c'est des individus. Soit bah, on les radie et puis on dit bah, c'est fini, vous pouvez plus aller au stade. Les Anglais l'ont fait hein, et ça marche. Hein. Aujourd'hui, dans les stades anglais, il n'y a plus un ultra. Il n'y a plus quelqu'un qui va sentir un truc sur un joueur. Il n'y a qu'en France où on voit encore des gens jeter des briquets sur les joueurs au poteau de corner ou à Marseille, par exemple, ou à Nice.
Mais tu et ailleurs.
Mais tu le vois pas en Angleterre, tu le vois pas en Italie, tu vois, en Italie si quand même, mais pas en Espagne. Et donc en fait, je pense aussi la mentalité ben, des clubs, je pense que c'est aussi au club aujourd'hui de durcir et puis de dire ben, si ça revient, et ben, vous ne pourrez plus venir au stade.
Ouais.
Je pense qu'il faut en arriver là.
Ouais, pour faire un point aussi sur ce qui s'est passé, d'où est née cette tension aussi récemment dans la semaine, les ultras dunkerquois, certains ultras dunkerquois, après la défaite de l'USLD lundi dernier à domicile face à Laval 2-0, certains ultras donc, voilà, après le match, se sont directement adressés aux joueurs en bord de la pelouse. Avec ces mots, notamment de l'un des leaders des groupes ultra dunkerquois, on ne va pas aller perdre chez les consanguins, suivi de chants homophobes adressés à l'encontre des boulonnais. Voilà, Maxime, évidemment, c'est extrêmement regrettable. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On peut se chambrer, on peut se chamailler un petit peu entre voisins. Mais là, voilà, les bornes ont été dépassées. Et d'ailleurs, il y a eu des réactions côté boulonnais aussi, côté dunkerquois, pour calmer le jeu, pour essayer d'arrêter que la situation ne s'envenime. Ouais. Pour faire un petit peu en sorte que ce match se passe bien.
Ouais, ça relève pas le niveau, c'est dommage, parce que, encore une fois, moi je le dis, j'aime bien ces petites rivalités, ces petites tensions, tant qu'elles restent évidemment dans le cadre. Et là, tu dépasses largement le cadre. Et c'est dommage. Après, ce terme de consanguin, on a l'impression que depuis cette finale là, de Coupe de
PSG,
France, avec le PSG, c'est devenu pour les clubs du Nord le mot facile. Qu'on va ressortir à chaque fois. Franchement, c'est
minable.
Je rejoins Cyril, ce que disait Cyril tout à l'heure avec Vincent. Enfin, c'est d'un autre âge. On n'a pas envie de voir ça. On préfère les banderoles parfois bien senties, avec de l'humour, et on les retient beaucoup plus facilement, je trouve, d'ailleurs derrière que ce genre d'insultes.
Après, mettons pas tous les ultras non plus dans le même panier. Ça reste une minorité de supporters. En tout cas, j'appelle pas ça de supporters, mais de personnes qui sont malveillantes. Et donc voilà. Et tant que ces gens-là continueront à venir dans les stades, ça perdurera malheureusement.
Oui, le préfet du Pas-de-Calais d'ailleurs a pris un arrêté hein, pour encadrer de manière très stricte la venue des supporters dunkerquois, comme vous le montrez tout à l'heure Vincent Vieillard, et le maire de Boulogne aussi, Frédéric Cuvillier, qui a appelé au calme dans la semaine, et aussi au respect de cette rencontre pour que ça se déroule le mieux possible. Une rencontre entre deux équipes qui sont en grande difficulté. Hein. C'est vrai que du côté dunkerquois, c'est une victoire sur les 12 derniers matchs en Ligue 2. Les dunkerquois qui sont en difficulté. Hein. La saison dernière avait été excellente, notamment pour l'USLD, et depuis c'est plus compliqué pour les dunkerquois.
Ouais, après ça reste un derby, hein. Donc aujourd'hui un derby, ben, les joueurs, là on en parlait tout à l'heure, mais ils ont les Boulogne, ils ont le stress d'avant-match, pas comme d'habitude, ils jouent peut-être déjà le match avant d'avoir joué. Après, je pense que Dunkerque a plus d'expérience hein, sur cette Ligue 2, ouais. Surtout avec la saison qu'ils ont faite depuis le début de saison qui était incroyable. Après, ils ont un gros trou d'air sur les deux matchs importants qu'ils ont perdus en février, où là ils ont commencé à chuter. Mais ça reste un derby, je pense qu'on verra un beau match de Ligue 2. Par contre, ouais, je vois l'avantage psychologique et plutôt Dunkerque.
Ouais. Et puis côté boulonnais, il y a eu cette victoire à Bastia mi-mars qui a fait beaucoup de bien pour l'USBCO, pour bien mettre en bonne voie cette opération maintien, même si sur les 4 derniers matchs, il n'y a eu aucun succès pour les hommes de Fabien Dagneau. Depuis le week-end dernier, avec les résultats de la journée, Boulogne est officiellement maintenu. Voilà, ça va libérer aussi les boulonnais, mais ça confirme leur excellente saison. On rappelle qu'ils viennent de loin. Hein. Ils ont été repêchés en dernière minute quasi dans ce championnat de Ligue 2. Le début de saison a été chaotique pour les Boulonnais, et ils s'en sortent très très bien avec un maintien acquis avant la dernière journée.
C'est clair, il ne faut pas oublier ça non plus. Hein. Ils arrivent en Ligue 2 de manière complètement inattendue, sans préparation, avec un effectif qui n'était pas taillé non plus pour ça. Donc c'est génial, et peut-être que ça va les libérer dans le stade de la Libération.
Oh, magnifique, magnifique, excellent. Il est en grande forme, Maxime Mailleul. Donc ce coup d'envoi de cette Opalico dans 1h15 du côté du stade de la Libération. On va retrouver dans quelques minutes, bien sûr, Vincent Vieillard qui va continuer à nous faire vivre cet avant-match, et bien sûr l'ambiance qui va monter au stade de la Libération. Vous avez vu les tifos tout à l'heure qui étaient en préparation. On espère une belle ambiance, en tout cas respectueuse, bien sûr, entre les supporters boulonnais et les supporters dunkerquois. On sait qu'évidemment, on l'a dit tout à l'heure, l'heure, ça a été chaud lors des deux premières confrontations, que ce soit au match aller en Ligue 2 à Tribut, mais aussi lors du match de Coupe de France entre les deux formations cette saison. Juste avant de retrouver Vincent Vieillard, donc tout à l'heure, dans quelques secondes, on va faire une petite pause et retour dans quelques minutes du côté du Stade de la Libération.
Retour en direct donc dans Copnor, ici au Stade de la Libération. On a vu, vous avez vu aussi les joueurs boulonnais arriver sur cette pelouse. Désormais, ce sont les Dunkerquois qui sont en train de reconnaître cette pelouse et de cette équipe dunkerquoise. On va en parler avec leur coprésident, Cécile Gabier. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous venez d'arriver au Stade de la Libération. Dans quel état d'esprit sont vos joueurs ?
Ben, mes joueurs sont très motivés parce que on a conscience que c'est un match à fort enjeu pour nous. C'est un derby. On a plusieurs quarts de supporters qui sont déplacés aujourd'hui, ce qui montre l'engouement non seulement pour le club, mais aussi pour ce derby. C'est une rivalité régionale qui est importante pour nous. Et puis, ça va nous permettre aussi de virer au positif après une série un peu négative. Donc, on est très motivés, décidés à faire en sorte que ce match soit une récompense pour nos supporters qui nous ont suivis toute l'année. Et pour l'ensemble du Dunkerquois qui a été vraiment fidèle cette année autour du club.
Vous avez parlé justement de cette série, on est sur 8 matchs sans victoire pour Dunkerque. Comment vous l'expliquez ? Certains évoquent encore des réminiscences du mercato hivernal. Est-ce que pour vous, il y a peut-être d'autres explications ?
Écoutez, il y a certainement beaucoup d'explications à ça. Il n'y a, pas qu'une seule cause. En tout cas, on a un club qui travaille bien, essaie d'aller pour l'ensemble de ses composantes dans le même sens. Après, c'est l'aléa du football. On peut des fois avoir des très bonnes périodes, des fois des moins bonnes périodes. L'important, c'est de garder le cap, garder une vision, garder une stratégie. On est là-dedans. Je pense que globalement, on a réussi une bonne saison et on la réussira d'autant plus si on gagne ce soir. Et on est là pour ça, parce qu'un derby, ça se joue pas pour nous, ça se gagne.
Pour vous, vous êtes en train de faire une bonne saison. Surtout, c'est le match de ce soir qui peut peut-être justement aider à paramétrer la fin de saison.
Non, je pense qu'on fait une bonne saison parce que faut pas non plus oublier d'où vient l'USL Dunkerque. On a un club qui se stabilise dans le haut niveau du football français. Ça va être l'année prochaine notre quatrième saison de suite en Ligue 2. Ça fait très très longtemps que le club n'était pas aussi stable à ces niveaux-là. Il y a une stabilité sportive, une stabilité administrative, une stabilité financière. On y travaille avec toutes les équipes tous les jours de manière constante. Et oui, je pense qu'on a fait une bonne saison et elle sera d'autant meilleure si on gagne ce soir. On est décidé à le faire, les joueurs sont motivés pour le faire. Et on fera les comptes à la fin, mais je pense que oui, on est plutôt dans une dynamique globalement positive, même si la série actuelle est plutôt mauvaise.
Alors parlons juste une dernière question sur le match de ce soir. Justement, vous le disiez, les joueurs sont motivés. On sait que vous avez des super relations avec Vincent Boutillier, le président. On sait que malheureusement, en tribune, ça se passe forcément très bien. Est-ce que vous avez un message à adresser ce soir aux supporters dunkerquois qui font le déplacement ou même à ceux qui n'ont pas pu venir ici ?
Alors oui, on a d'excellentes relations avec le club de Boulogne, qui est un club qui travaille très bien et qu'on respecte. On a eu des échanges avec nos supporters. J'en ai eu avant de monter dans le bus tout à l'heure. Je pense que nos supporters vont jouer le jeu. On sortira de ce match la tête haute, sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain. Là-dessus, je n'ai pas d'inquiétude du tout. Il y a eu en effet, par le passé, quelques problématiques, mais je ne pense pas que ce soir, ça se réitérera. En tout cas, moi, je suis confiant. Je sais que les supporters vont jouer le jeu et qu'on sortira la tête haute tous ensemble de ce match avec une victoire.
C'est ce qu'on espère, effectivement, que ce soit le football le grand vainqueur ce soir, même si, effectivement, on vous souhaite aussi une victoire pour Dunkerque. On espère voir des buts du spectacle ici au Stade de la Libération. Le coup d'envoi, il est prévu tout à l'heure à 20h45.
Merci beaucoup Vincent Vieillard et on continue à suivre avec vous bien sûr cet avant-match du côté du Stade de la Libération à Boulogne-sur-Mer à 1h10 maintenant du coup d'envoi de cette Opalico 32e journée de Ligue 2 BKT, un match sans grands enjeux sportifs bien sûr hein, avec l'USBCO déjà maintenu officiellement pour une nouvelle saison en Ligue 2 la saison prochaine et du côté de l'USLD c'est très compliqué hein, les Dunkerquois qui ont dit quasiment adieu aux play-offs pour disputer la montée en Ligue 1, l'USLD qui reste sur une très mauvaise série d'une seule victoire sur les 12 derniers matchs. On a parlé Ligue 1, on parle Ligue 2, c'est le fil rouge de notre Cop Nord du soir. On va parler aussi National à présent avec le VAFC Valenciennes qui s'est incliné ce week-end sur sa pelouse face à Dijon, une défaite 1-0 pour les Valenciennois. Le résumé de la rencontre avec les équipes d'RMC Sport.
Une fois encore, les Valenciennois pourront nourrir des regrets parce qu'au Hainaut, ils ont eu de nombreuses occasions sans jamais parvenir à les concrétiser. Charles Abbi a bien tenté de battre le portier dijonnais à plusieurs reprises, sans succès. Le seul but de la rencontre est à mettre au crédit de Julien Dominguez, une tête inscrite à l'heure de jeu. Le VFC s'incline 1-0 et paye à nouveau son manque d'efficacité, comme lors de son dernier match face à Fleury.
Oui, le manque d'efficacité offensive du VAFC, on va en parler bien sûr, ça va être l'un des thèmes de notre COP Nation du soir. On accueille Frédéric Touchard, journaliste sportif qui commente les matchs du VAFC. Bonsoir Frédéric.
Salut Thomas.
Bon Frédéric, une nouvelle défaite pour le VAFC après celle à Fleury-Mérogis sur le score de 2-0. C'est dur pour le VAFC en ce moment, manque d'efficacité, hein, vraiment ça a été le cas à domicile face au DFCO. Hein.
Ouais, on l'a vu notamment avec Charles Abbey, hein, qui a eu deux grosses possibilités d'ouvrir le score. Ça aurait sans doute changé la donne parce que le VAFC a fait une très belle première mi-temps. En face, Dijon a attendu son heure et ce but de Dominguez en deuxième période. C'est vrai que c'est un petit peu le mal récurrent tout au long de la saison de cette formation valenciennoise. C'est ce manque d'efficacité. Le rectangle a été souvent occupé par les Valenciennois, mais les filets n'ont que très rarement tremblé.
VFC qui a tiré 9 points au but face au DFCO, 3 tirs cadrés pour le VFC. Voilà, ça manque de buts en ce moment pour VA en cette fin de saison. Comment l'expliquer, Frédéric? Parce qu'il y a des situations, hein, à l'instar de ces 9 tirs, 3 tirs cadrés sur cette rencontre, mais on n'arrive pas à marquer.
Non, et pourtant, les Valenciennois essayent. Les centres d'Alexis Koum sont très bons. Ils sont très fuyants. Ils reviennent bien sur les attaquants. Mais seulement derrière, ça ne marque pas. Gaëtan Courté était suspendu pour ce match. C'est Charles Abbey qui était à la pointe de l'attaque. Et il n'a pas trouvé l'efficacité. Il est un petit peu en plein doute. Hein. Charles Abbey est arrivé en cours de saison. Il a marqué tout de suite. Et puis après, ça a été quasiment rideau. Il a eu du mal à concrétiser les nombreuses occasions qui se sont présentées devant lui. Il a encore un an de contrat. On va le revoir la saison prochaine. On espère qu'il va mieux entamer en tout cas la saison future.
Oui, un seul but hein, sur les 3 derniers matchs pour VFC, c'était face à Versailles lors de la victoire face au Versaillais le 10 avril dernier. 7e défaite à domicile donc de la saison concédée ce week-end face au DFCO. Tony, c'est dur hein, pour VA en ce moment qui est en difficulté. Il y a eu un peu d'instabilité aussi, on va en reparler. Il y a un coach qui assure l'intérim depuis quelques semaines. Voilà, VA qui vit une saison difficile.
Ouais, c'est difficile et puis en plus j'ai des amis qui sont supporters de Valenciennes qui vont au stade et franchement c'est une souffrance pour eux et je souffre pour eux aussi parce que avec un tel budget, une telle équipe, tu te dis en national ils vont rouler sur tout le monde et en fait c'est l'inverse, ils se font rouler dessus alors qu'ils ont un budget démentiel, ils ont des infrastructures incroyables, ils ont un stade qui est magnifique, c'est une ville de foot Valenciennes donc ça reste aussi en plus le nord donc on voudrait les voir au moins revenir en Ligue 2, c'est quand même leur niveau et aujourd'hui on se rend compte que ben c'est poussif et tous les matchs c'est manque de réalité, manque d'efficacité dans les deux surfaces. Donc c'est dur pour eux et on espère voir des beaux jours l'année prochaine auprès de Valenciennes.
Mais bon. Oui, Maxime, c'est vrai que voir VA végéter là en national depuis plusieurs saisons, c'est dur pour notre football, nous ici dans le Nord-Pas-de-Calais, de voir VA autant en difficulté quand même.
Oui, on a envie de voir les clubs de la région au plus haut niveau, donc c'est vrai que ça fait mal. Après, c'est toujours pareil, avec ce manque d'efficacité, on a l'impression qu'il y aurait, s'il y avait eu un déclic un moment plus tôt, la confiance qui revient, bah, ils auraient pu retourner un peu certains matchs qu'ils ont perdus de peu. Après, ouais, c'est dommage. C'est toujours dur ces clubs avec un nom de redescendre en national parce qu'il faut un effectif taillé pour le national qu'ils n'avaient peut-être pas au début de la saison.
Ouais. Frédéric, VA qui est 11e donc au classement avec 35 points. VA qui, le maintien est quasiment acquis hein, pour Valenciennes évidemment. On ne regarde pas forcément derrière. Quoique, qu'est-ce qui se dit quand même du côté du club en cette fin de saison ?
Non, le maintien est acquis, hein, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'on parle de cette équipe de Valenciennes, le nom de Valenciennes qui fait encore rêver, hein, parce que c'est un club qui a longtemps évolué en Ligue 1, Ligue 2, et forcément sa place est en Ligue 2. On le disait avec ses infrastructures qui sont quand même exceptionnelles pour le championnat national, c'est évidemment en Ligue 2, il faudra reconstruire, il faudra rebâtir une équipe. Alors avec quel coach, ça on ne le sait pas non plus, mais il faudra forcément rebâtir. Je pense que là, il reste deux matchs, déplacement à Sochaux et l'arrestation de Châteauroux. Châteauroux, c'est un petit peu le même schéma, mais c'est pire encore, parce que Châteauroux va sans doute descendre dans ce qui va être la nationale la saison prochaine. Il faudra rebâtir, on voit des jeunes joueurs qui commencent à montrer le bout du nez, on voit Bourichon, on voit Haussmann, on voit Niembe, on voit Jules Collet qui revient également dans le groupe, qu'on avait vu déjà la saison dernière, mais qu'on avait un peu moins vu cette saison. Il faudra vraiment rebâtir, et je pense que ces deux derniers matchs vont servir à faire une revue d'effectifs pour la saison prochaine.
Et Frédéric, vous parliez de Châteauroux, voilà, c'est un aussi, on parlait de Valenciennes qui végète en national, Châteauroux qui était en Ligue 2 la saison dernière, qui a joué le barrage face à l'USBCO et qui est descendu en national, et c'est Castelroussin qui vont peut-être faire une deuxième année consécutive, une descente. Voilà, il y a des symboles aussi, des totems de notre football français qui sont en train de vaciller, hein. Fred, on parlait aussi des Girondins de Bordeaux, bien sûr, on en parle beaucoup. VA est un club historique
de notre football français. Il y a Caen, exactement.
Sochaux aussi.
Des équipes qui sont bâties par des niveaux inférieurs qui montent petit à petit et qu'on voit se structurer. On voit ce championnat national, il faut quand même l'expliquer, c'est quand même un championnat extrêmement difficile, c'est intense ce championnat national, et il suffit d'avoir un petit trou d'air pour voir le haut de tableau s'échapper et voir surtout le bas de classement arriver.
Il y a un quatuor de tête, hein. Dijon, pardon, Sochaux, Fleury et le FC Rouen notamment. Frédéric, pour la saison prochaine, j'imagine qu'on se projette déjà du côté de VA. Le recrutement, on sait que la fin de saison, voilà, c'est un moment où on commence aussi à voir un petit peu ce qui peut se faire sur le marché, avoir des opportunités. Comment on est du côté de Valenciennes par rapport à la saison prochaine? Peut-être déjà, avec quelles ambitions on va arriver la saison prochaine?
Bon, je pense que les ambitions seront évidemment les ambitions de remonter en Ligue 2. Bon, il y a le nouveau championnat de Ligue 3, on va voir un petit peu ce que ça va donner. On sait déjà que les joueurs prêtés vont partir. Alexis Koum qui va partir à l'OM, il y a El Hadary qui va partir, repartir au Paris FC, et Strader Apoua qui va partir du côté de Palerme, à moins qu'il soit prêté une troisième saison. Pour le reste, il y a quand même des anciens dans cette formation, des joueurs qui ont atteint 32, 33, 34 voire 35 ans, Gaëtan Courtet, on pense à Alexandre Coef, on ne sait pas s'il va rester, Loïc Landre également, ce sont tous des anciens comme ça qui pourraient ne pas rester dans le Hainaut. Quentin Daubin qui est arrivé en cours de saison, qu'on n'a quasiment pas vu dans cette deuxième partie de championnat, Ahmed Diomandé sur lequel on misait beaucoup quand même, qui a quelques petits soucis de discipline, on va dire, on l'a plus vu du tout dans cette deuxième partie du championnat, et c'est là qu'il faudra trouver les bons éléments. Eriaf Berry qui était arrivé, le Canadien qu'on a vu pendant deux matchs et finalement qui a totalement disparu. Ce qui est important aussi pour le club pour cette fin de saison, c'est que son équipe réserve qui était largement en tête de R1 est désormais a repris le commandement ce week-end avec Saint-Amand, mais ça serait bien quand même que cette équipe de R1 remonte en National 3 qui va devenir donc National 2 pour réduire un petit peu l'écart entre les deux divisions, et quand les joueurs vont passer d'une division à l'autre, qu'il n'y ait pas une énorme différence.
Oui, et puis passe décisive parfaite, Frédéric, sur la réserve de VA. L'ancien coach de cette réserve, évidemment, ouais. Pierre Blois, qui a pris l'intérim donc de l'équipe première en national. Voilà, depuis mi-février, forcément, ça a des conséquences, bien sûr, pour les finances du club, parce que Pierre Blois n'a pas tous les diplômes requis, et forcément, ça coûte très cher à Valenciennes à chaque apparition de Pierre Blois sur le banc de VA.
Ouais, ils ont eu une dérogation d'un mois. Ensuite, c'était 7 500 euros le match. Hein, le match, les finances vont encore être lourdement chargées pour le VAFC pour cette fin de saison. Ce qui est sûr, c'est que Pierre Blois ne sera pas sur le banc la saison prochaine. Il n'a pas les diplômes. Il ne fait pas partie de la liste des entraîneurs qui vont obtenir le DEPF. Important, Fabien Dagneau en est un bel exemple. Hein. Lui qui est arrivé de National, qui est l'entraîneur de Boulogne, dont on va voir le match ce soir, et qui lui va passer le DEPF et qui va pouvoir rester lui sur le banc. Ça ne sera pas le cas de Pierre Blois, qui va sans doute repartir à l'échelon inférieur.
Merci beaucoup Frédéric Touchard d'avoir été avec nous, journaliste sportif, commentateur des matchs de VA. Bonne soirée Frédéric, à la prochaine.
Bonne soirée.
Voilà, merci à Frédéric Touchard. Je vous rappelle que cette formation de VA jouera le week-end prochain du côté de Bonal, un autre club français historique de ce championnat de national face au FC Sochaux-Montbéliard. Voilà pour cette page nationale. On va faire un tour aussi de l'actualité sportive Omnisport qui s'est déroulée le week-end dernier dans le Nord-Pas-de-Calais, avec notamment les guerrières de Villeneuve-d'Ascq en basket féminin qui disputaient la finale de la Coupe de France.
La marche était trop haute pour les joueuses de Villeneuve-d'Ascq en finale de la Coupe de France face à l'ogre Basketland. Alexis Peterson aura tout tenté dans la raquette et à 3 points, 28 unités pour l'arrière, meilleure marqueuse du match. Mais le collectif des championnes de France en titre patronne de la saison régulière était trop fort. Victoire tout en maîtrise 77-65, troisième Coupe de France pour le club landais, toujours aucune pour les nordistes après 3 finales. La course au play-off n'est pas terminée et Denain l'a bien prouvé samedi soir en s'imposant 80-75 face à Aix-Maurienne. La lutte a été intense tant les Savoyards se sont accrochés, mais tout s'est joué dans le money time. Les joueuses d'Ali Bouziane, tenaces, n'ont rien lâché, portées notamment par Romain Parmentelot, auteur de 20 points. C'est le deuxième succès de rang de Denain, septième au classement. Il reste 3 journées de saison régulière pour espérer se qualifier directement, sans passer par les play-in.
Allez, vous êtes toujours dans COP Nord, votre émission consacrée à l'actualité sportive du Nord et du Pas-de-Calais, évidemment comme chaque lundi, exceptionnellement ce soir bien sûr entre 18h30 et 20h pour cette Opalico entre l'USBCO et l'USLD. C'est du foot, c'est de la Ligue 2. Les prochains rendez-vous bien sûr importants hein, pour nos équipes concernées en football pour le week-end prochain, avec donc, on en parlait, VA qui sera sur la pelouse de Sochaux samedi à 17h le même jour, également à 20h les deux matchs de nos équipes en Ligue 2, avec l'USLD qui accueillera Grenoble du côté de Marcel Tribu, Boulogne qui accueillera Annecy, et puis samedi à 21h05, on en parlait tout à l'heure, gros choc pour le Racing Club de Lens sur la pelouse de l'Allianz Riviera de Nice. Dimanche, eh bien, Lille accueillera Le Havre à 15h, un match très important pour les Dogs bien sûr, pour prendre encore plus de l'avance dans cette course à la Ligue des Champions. Maxime, voilà, pour ces Lillois, évidemment, on en parlait tout à l'heure, il faut gagner face à deux équipes à domicile lors de cette fin de saison. Le Havre est donc Auxerre lors de la dernière journée, qui joue pour leur maintien. Lille doit prendre des points pour bien sûr se mettre en excellente position.
Ouais, faut plus chercher maintenant, c'est la fin de saison, c'est le sprint final. Là, les clubs qui vont y arriver, c'est ceux qui vont engranger les points sans chercher à faire forcément du beau jeu. Mais voilà, il faut plus perdre de points en route si on veut espérer la troisième place. Et franchement, je pense que c'est à la portée des Lillois.
Et Tony, côté Lensois, alors Pierre Sage va peut-être pas faire la même erreur hein, sur la pelouse de Nice que contre Brest, à savoir faire quand même globalement tourner son effectif. Là, on imagine qu'il y aura quasiment 11 types hein, sur la pelouse de l'Allianz Riviera samedi soir.
Vu son cri de gueule, je pense qu'il ne fera pas la même erreur. Mais oui, là,
effectivement, les prochains matchs sont Nancy, Nice et puis Nantes vont être... Ils vont être très importants et je pense que si on sort avec deux victoires, la deuxième place sera validée automatiquement. Oui. Donc après, on jouera le PSG. Je pense que ça sera un match plaisir, malgré le fait qu'il n'y a plus d'enjeu. Mais...
Oui, à Bollard, le 13 mai, ce match reporté qui a fait beaucoup parler aussi dans cette saison. Ça a été l'un des temps forts de cette saison de Ligue 1, en tout cas de ce sprint final. Il y aura un match de ce prestige à jouer pour les Lensois. À le Paris Saint-Germain, mais vous l'entendez, l'ambiance monte du côté du stade de la Libération. On va retrouver Vincent Vieillard, c'est l'un des matchs de cette semaine en foot dans notre région, l'Opalico, entre l'USBCO et l'USLD, 32e journée de Ligue 2. Vincent, on est à moins d'une heure du coup d'envoi et je crois bien que vous êtes dans les tribunes du stade de la Libération avec des supporters boulonnais.
Là, je suis même avec Seb, le capot des Marguets de la Libé, et c'est lui qui aura la lourde tâche d'animer cette tribune ce soir. Bonsoir Seb.
Bonsoir.
Alors comment ça se passe là? On voit que les tifos sont prêts. Qu'est-ce que vous avez prévu avant le coup d'envoi?
Du coup, pour ce soir, il y aura un grand tifo qui sera sur le haut de la tribune, avec 4500 drapeaux rouges entre la tribune Ribéry et la tribune présidentielle. Et puis on va faire la fête.
Ça te fait quoi de voir cette Libé pleine pour accueillir le voisin d'un Carquois après une saison où ça y est, Boulogne est enfin maintenu? Il y a le soulagement du supporter quelque part, mais il reste encore quelques matchs.
Ouais, c'est ça, on est soulagé, on est maintenu, il reste encore 3 matchs pour nous, 2 pour les autres. C'est un grand, comme tu dis, c'est un grand soulagement. C'est une belle fête pour nous ce soir. La plus belle des fêtes serait de battre Dunkerque, bien sûr. En sachant qu'il reste 4 points d'écart entre les deux équipes. Si on gagne, il ne reste qu'un point. Ils sont sur une dynamique négative.
Dunkerque sur la pelouse, Dunkerque dans les tribunes aussi. En termes de chant, il y a eu des consignes. Comment vous avez préparé les choses? On sait qu'il y a eu des tensions, des insultes malheureuses sur les réseaux sociaux. Là, c'est quoi le mot d'ordre pour vous ce soir?
Faire la fête, chanter, supporter notre équipe. On n'a rien préparé de spécial à part notre tifo et les drapeaux.
juste faire la fête, éviter les chants insultants. On ne veut pas que notre équipe soit pénalisée pour ça. Et le but, c'est de faire la fête et de gagner, tout simplement.
C'est pour ça que c'est super d'avoir ce genre de message ce soir, parce qu'en fait, ça reste un derby, même si l'ambiance ne va pas forcément dépendre de l'enjeu sportif, parce qu'il est absent ce soir. Là, ce que tu veux nous proposer ce soir, c'est de dire que bah, les insultes, ça ne sert à rien. Là, vous êtes là pour votre équipe.
C'est ça, tout simplement. Les joueurs, ils vont faire le taf. Les joueurs, ils vont m'emmener tout le monde. Et moi, j'aurais plus qu'à les faire lever pour faire chanter tout le monde et que la fête, elle soit belle.
Alors, on sait que du côté de Boulogne-sur-Mer, on est ici en tribune de Ribéry. Il y a toujours eu un peu d'ambiance en Ribéry. Il y a la tribune en face, la présidentielle, elle est un peu plus dure à faire lever. Tu penses que tu peux les faire lever pendant ce match ?
Elle est facile à faire lever, la présidentielle. Il faut juste y aller, que j'ai quelqu'un qui puisse gérer le coffre pendant que je suis là-bas. Et puis, bah, vous verrez tout à l'heure, ça va bien se passer. Tout le monde y sera debout. En espérant qu'il y ait la victoire derrière.
On va suivre ça. Merci beaucoup Seb, on te souhaite un bon match ainsi qu'à tout ton COP à ce soir. Merci beaucoup donc pour cette rencontre dont le coup d'envoi est à 20h45. Voilà, ce COP Nord spécial derby USBCO USLD est en train de toucher à sa fin. J'en profite donc eh bien, pour vous remercier déjà vous messieurs en plateau, Thomas Palmier, Tony Méreux, sans oublier donc Maxime Bayeul et Tao Coubrin. On en remercie aussi Frédéric Touchard qui était notre expert valenciennois ce soir. Merci aussi Emmanuel Calafior et Clément Kaminski qui étaient en régie. On n'oublie pas Théodore Peterson qui lui était avec moi à la caméra ici au stade de la Libération. Ce match, on va en reparler dès demain dans la matinale d'Adrien Lannoy sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. On espère avoir du grand spectacle ici au stade de la Libération avec un match voilà, qu'on espère beaucoup moins attendu que les précédents. En tout cas, c'est surtout de football qu'on veut voir ici du côté du stade de la Libération. Très bonne soirée à tous. On se retrouve nous lundi prochain pour un nouveau COP Nord. Très bonne soirée à tous. À bientôt, salut.
Bonne soirée Vincent, merci beaucoup et bon match à vous. On sait que vous allez en profiter hein, de cette ambiance du côté du stade de la Libération. On n'a aucun doute, hein, messieurs, on est sûr que Vincent va en profiter.
Oui, gros supporter de Dunkerque.
En tout cas, voilà, on espère qu'il va y avoir une bonne ambiance et surtout un joli match de foot du côté de la Libération. Merci messieurs d'avoir été avec nous, de nous avoir accompagnés. On remercie, je me joins évidemment à Vincent pour remercier Emmanuel Calafior et Clément Kaminski qui étaient en régie pour nous accompagner tout au long de cette soirée. Très bonne fin de soirée à tous. Bon match pour ceux qui vont peut-être à la Libération, sinon devant la télévision. Et vous retrouverez Vincent Vieillard la semaine prochaine, ici même, bien sûr, pour un nouveau COP Nord. Bonne fin de soirée à tous et à la prochaine. Salut.